chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 9 et notre thème sera « Supporter et obéir ». Chers amis, nous avons vu que la sainteté, c'est être comme Christ. Nous avons vu qu'être comme Christ, c'est possible, surtout possible pour ceux qui sont en Christ. Je veux maintenant que nous examinions une autre facette de la sanctification afin de reconnaître que ceux qui sont en Christ devraient avoir comme but d'approfondir leur relation avec Christ. Nous ne devons jamais oublier qu'en poursuivant la sainteté, ce n'est pas une chose que nous poursuivons, mais c'est une personne. Les bienfaits de l'Évangile, la justification, la sanctification, la glorification et tout le reste font partie d'un seul trésor, Jésus-Christ. Dans l'un des meilleurs paragraphes que vous lirez dans votre vie, le célèbre homme de Dieu, Jean Calvin, a écrit « Notre salut tout entier, avec toutes ses complexités, est seulement trouvé en Christ. » Actes chapitre 4, verset 12. Par conséquent, nous devrions veiller à ne pas devoir la moindre parcelle de notre salut à quoi que ce soit d'autre. À ceux qui cherchent le salut, il est enseigné par le nom de Jésus qu'il est trouvé seulement par lui. Notez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Si nous cherchons tout autre don de l'Esprit Saint, nous les trouverons dans son onction. Si nous recherchons la face, c'est-à-dire la force, excusez-moi, je répète, si nous recherchons la force, nous la trouverons uniquement dans sa domination. La pureté, nous la trouverons dans sa conception. La douceur, nous la retrouverons dans sa naissance. Car par sa naissance, il a pris la même forme que nous. Hébreux chapitre 2, verset 17. Et ceci afin de pouvoir ressentir notre souffrance. Notez Hébreux chapitre 5, verset 2. Si nous cherchons la rédemption, nous la trouverons dans sa passion. Si nous cherchons l'acquittement, nous la trouverons dans sa condamnation. Si nous trouvons la rémission des péchés, nous la trouverons sur sa croix. Galates chapitre 3, verset 13. La satisfaction, nous la trouvons dans son sacrifice. La purification, nous trouvons dans son sang. La réconciliation, nous la trouvons dans sa descente en enfer. La mortification de la chair, nous la trouvons dans son tombeau. La nouveauté de vie, nous la trouvons dans sa résurrection. L'immortalité aussi, telle que l'héritage du royaume des cieux, nous la trouvons dans son entrée au ciel. La protection, la sécurité et l'abondance de toute bénédiction, nous la trouvons dans son royaume. L'attente paisible du jugement, nous la trouvons dans le pouvoir qui est donné pour juger. En bref, puisque toutes les richesses inimaginables abondent en lui, abreuvons-nous à cette fontaine seulement. Ce n'est pas, chers amis, ce n'est pas seulement la sainteté que nous voulons, mais nous voulons celui qui est saint, en qui nous sommes jugés et rendus saints. Courir de toutes ses forces après la sainteté, c'est aussi courir de toutes ses forces après Dieu. Le processus s'enclenche, la justification objective mène à une sanctification subjective lente, mais assurée, de sorte que notre union immuable avec Christ nous entraîne dans une communion en constante expansion avec lui. Chers amis, union et communion n'expriment-ils pas essentiellement la même chose? On pourrait le croire. En effet, ils sont intimement reliés, mais ils ne sont pas synonymes. Eh oui, l'union avec Christ est l'œuvre irrévocable du Saint-Esprit. Une fois que nous lui sommes unis, rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ. Rien ne peut nous attacher davantage et rien ne peut nous détacher. L'union avec Jésus-Christ est donc inaltérable. En revanche, le péché et l'insensibilité à la grâce de Dieu peuvent influencer la communion avec Christ. C'est un peu comme le mariage, hein? Vous ne pouvez pas être plus marié ou moins marié, ça c'est l'union. Mais votre mariage peut être fort ou plus faible, ça c'est la communion. Donc, notre relation avec Christ peut aussi être approfondie lorsque nous prêtons attention aux diverses expressions de la grâce de Dieu envers nous. Paradoxalement, celui qui souhaite conserver sa communion en Christ se doit de croître dans sa communion avec Christ. Pour reprendre les mots de Calvin, Calvin dit « Non seulement Christ reste attaché à nous par un lien invisible de communion, mais jour après jour, par une merveilleuse communion, il forme de plus en plus un seul corps avec nous jusqu'à ce qu'il devienne entièrement un avec nous. » Ça vaut la peine de répéter. Non seulement Jésus-Christ reste attaché à nous par un lien invisible de communion, mais jour après jour, par une merveilleuse communion, il forme de plus en plus un seul corps avec nous jusqu'à ce qu'il devienne entièrement un avec nous. Voyez-vous? Donc, je ne veux pas trop insister sur ce sujet-là, mais il est donc important que nous comprenions que la communion avec Christ est basée sur l'union avec Christ et non le contraire. La communion avec Christ est basée sur l'union avec Christ et non le contraire. Certaines traditions soulignent la communion avec Christ sans accorder suffisamment d'attention au fait que nous sommes premièrement joints à Christ par la foi. L'appel de l'Évangile ne commence pas par une invitation à méditer sur Christ ou à se perdre en Dieu. L'Évangile annonce la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et nous appelle ensuite à placer notre confiance en sa personne et en son œuvre. La contemplation ne mène pas au salut, mais c'est l'expiation qui y mène. Répétons ça. La contemplation ne mène pas au salut, mais c'est l'expiation qui mène au salut. Nous ne pouvons éviter les catégories apostoliques centrales que sont l'incarnation, la rédemption, la substitution, la propitiation, la réconciliation et la justification pour passer directement à la communion avec Dieu. L'Évangile ne nous demande pas de méditer et de contempler le yoga, mais de nous repentir et de croire, mais de nous repentir et de croire. C'est alors qu'à partir de cette union, il nous est donné le privilège et la responsabilité de rechercher toujours plus la communion avec Christ. Par communion, je parle simplement de notre relation avec Christ, dans sa superbe œuvre communion avec Dieu. John Owen a utilisé 400 pages pour décrire la communion que nous pouvons avoir avec chaque membre de la Trinité. La communion spéciale du Père avec nous, c'est l'amour. Celle du Fils, c'est la grâce. Et celle de l'Esprit-Saint, c'est le réconfort. Owen explique en détail que la communion est un thème complet et compliqué. Heureusement, derrière toutes les proses condensées de Owen, se trouve un thème central et assez simple, à savoir que la communion avec Dieu est une relation réciproque entre Dieu et nous. Je répète, la communion avec Dieu est une relation réciproque entre Dieu, notre Papa Céleste, et nous. Ainsi, la communion avec Christ consiste à renforcer notre relation avec lui. Alors que nous grandissons dans la connaissance et dans l'appréciation de sa personne, nous expérimentons encore plus profondément son amour et son affection pour nous. Plus crucial encore pour notre but, alors que nous approfondissons notre communion avec Christ, c'est le fait que voyons et savourons de plus en plus sa grâce, jour après jour, nous obéissons à Jésus-Christ librement et sans réserve. Il est tentant de voir la communion avec Christ et la poursuite de la sainteté comme étant deux visions opposées de la vie chrétienne. Vous pouvez vous imaginer un groupe de chrétiens qui insiste sur notre relation personnelle avec Jésus et un autre groupe qui réplique « Non, 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 il s'agit seulement d'obéir à Jésus. » Le premier groupe traite l'autre de légaliste, alors que ces derniers trouvent que les premiers sont enchevêtrés dans un charabia trop subjectif. Cependant, la Sainte Bible, elle ne permet pas une telle division entre la communion avec Christ et l'obéissance à Christ. En fait, il est très difficile de séparer les deux. Dans Saint Jean chapitre 15, Jésus dit aux disciples, « demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Saint Jean, chapitre 15, verset 4. Il ajoute, Jésus ajoute, « Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 5. Jésus-Christ demeure donc en nous et nous devons demeurer en lui. Mais comment demeurer en Christ? Eh bien, les versets 9 à 11 de Saint Jean chapitre 15 expliquent que nous demeurons en lui lorsque nous lui obéissons. Si nous obéissons au commandement de Christ, nous demeurerons dans son amour. Verset 10. Je répète. Nous demeurons en Jésus-Christ lorsque nous lui obéissons. Si nous obéissons au commandement de Jésus-Christ, nous demeurons dans son amour. Verset 10. Cet état, Christ en nous et nous en Christ, ne peut être dissocié de notre sainteté personnelle. Dieu demeure au sein de son peuple et en son peuple, en renouvelant sa vie par l'Esprit Saint et en faisant connaître sa présence en lui et en son sein. Notez Saint Jean, chapitre 14, versets 16 et 23. Son peuple demeure en lui en obéissant à ses commandements. Je répète, son peuple demeure en lui en obéissant à ses commandements. Bien sûr, nous devons nous garder d'instaurer un ordre temporel strict entre demeurer et obéir. Si nous le faisons, nous commettons l'erreur de croire que nous devons obéir avant de pouvoir demeurer en lui. Il est aussi faux de croire que nous pouvons nous attacher à lui de tout notre cœur avec toutes sortes de cordes et de nœuds avant même de marcher dans l'obéissance. En vérité, demeurer et obéir sont presque synonymes. Donc, nous obéissons en demeurant et nous demeurons en obéissant. Je répète, nous obéissons en demeurant et nous demeurons en obéissant. Les croyants frustrés doivent se rappeler qu'ils porteront du fruit seulement lorsqu'ils seront connectés à la vigne. Car sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Versets 5 et 6. La communion avec Christ n'existe pas sans l'allégeance à Jésus-Christ. Je répète, la communion avec Jésus-Christ n'existe pas sans l'allégeance à Jésus-Christ. Cette connexion est aussi claire dans les épîtres de Saint Jean qu'elle l'est dans son évangile. Si nous demeurons en Christ, nous devons marcher comme il a marché, lui. Et là, nous sommes dans l'épître de Saint Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Je répète, 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Donc, celui qui demeure en Christ ne pratique pas quoi? Ne devrait pas pratiquer le péché. Chapitre 3, verset 6. Celui qui n'aime pas n'a pas la vie éternelle qui demeure en lui. Chapitre 3, verset 15. Nous sommes dans la première épître de Saint Jean. Hein? Donc celui qui garde les commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Chapitre 3, verset 24. Si nous, nous aimons les uns les autres, à la place de nous taper dessus, Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Chapitre 4, versets 12 et 16. Comme nous l'avons déjà vu, Saint Jean ne nous dit pas d'être parfait. Nous avons un avocat, oui, un avocat vers qui nous pouvons nous tourner pour être pardonnés. Chapitre 1, verset 9 et chapitre 2, verset 1. Toutefois, l'assurance que nous avons en Christ ne peut nous servir d'excuse lorsque notre vie est marquée par une désobéissance apathique ou même rebelle, être rebelle à Christ. Le verbe « demeurer » a plus d'occurrence dans les écrits de Saint Jean que dans tout le reste du Nouveau Testament réuni. Il veut que nous comprenions que la communion avec Jésus est merveilleusement possible dans cette vie même, actuellement, aujourd'hui, comme dans l'autre. Toutefois, cette communion, elle doit être accompagnée de preuves concrètes. Un mépris de la sainteté indique que nous ne sommes pas en communion avec Christ et que nous ne demeurons pas en lui. À l'inverse, marcher avec Christ et prendre plaisir en notre communion avec lui implique de marcher comme Christ a lui-même marché et de garder ses commandements. Chers amis, si la communion avec Christ est essentielle à la sainteté, si elle doit conduire à la sainteté, et si elle semble parfois presque identique à la sainteté, il serait donc sage de chercher les moyens d'approfondir cette communion-là. En d'autres mots, si l'union avec Christ signifie que nous avons le privilège et la responsabilité d'approfondir notre communion avec Christ, que faisons-nous pour enrichir cette communion et pour pouvoir la savourer? Eh bien, nous ne faisons pas grand-chose. Rien. Et c'est cela qui constitue une partie de la réponse. Oui, nous ne faisons rien. Cependant, Dieu, lui, il fait énormément de choses pour nous, avec nous et à travers nous. Nos émotions connaissent des hauts et des bas, évidemment. Pourtant, Dieu est toujours là. Il n'a pas à attendre un effort conscient de notre part pour nous sanctifier. Il pourvoit simplement à une succession d'événements et de circonstances dans notre vie qui auront pour effet de nous humilier, de nous purifier et de nous rapprocher de Jésus-Christ. Il peut arriver que Dieu utilise aussi la souffrance. Il l'a fait dans mon cas. J'ai été plusieurs fois entre la vie et la mort. Eh bien, il a fallu que le Seigneur me tire les oreilles fortement. Et tout cela pour nous façonner et pour nous briser, pour briser notre tendance avec l'indépendance. Nous ne sommes peut-être pas conscients de tout ce qui nous rapproche de Christ. Mais avec les années, eh bien, nous remarquons que notre amour pour Jésus est devenu beaucoup plus fort, que notre relation avec lui est devenue plus solide et que nous ressentons davantage sa présence. Même durant les périodes sombres et lorsque nous traversons des déserts, nous ne pourrons que constater que Dieu n'a jamais cessé. Il n'a jamais cessé de travailler dans notre vie. Dieu vient constamment vers nous. Il vient pour nous courtiser, pour nous parler. Il nous supplie et il se tient à la porte et il frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si une partie de la réponse est rien, eh bien une autre partie doit être quelque chose. En vérité, Christ est à l'œuvre souvent de façon imperceptible, sans participation consciente de notre part, et cela afin de nous rapprocher de lui. Toutefois, nous avons un rôle à jouer, et oui, comme dans notre relation, il y a des pratiques que nous devons développer et nous avons du travail à accomplir pour croître dans notre communion avec Jésus-Christ. Tout d'abord, nous poursuivons notre communion avec Christ dans la prière. Il est facile de démontrer par des passages bibliques que nous devons vraiment prier. Jésus en fait du reste une priorité. Notez Saint Marc chapitre 1 verset 35. Il a enseigné à ses disciples comment prier. Saint Matthieu chapitre 6 verset 5 à 13. Nous sommes donc appelés à persévérer dans la prière. Colossiens chapitre 4 verset 2 et à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Vous pouvez faire comme moi. La nuit, vu mon âge certain. Quelle horreur. Oui, c'est vrai. Eh bien, je dors pas trop. Alors vous pouvez prier dans la pensée, sans réveiller des gens autour de nous, au-dessus ou au-dessous, en pensée, car Dieu lit nos pensées. Jésus peut lire nos pensées. Nous pouvons en penser, prier tout du long, recommander celui-ci, celle-là, dans les mains du Seigneur. S'il y a une chose sur laquelle les chrétiens s'entendent, c'est que Dieu veut que nous prions. S'il y a une autre chose sur laquelle les chrétiens s'entendent, c'est que nous sentons coupables de ne pas prier davantage. Je doute fort qu'il ait déjà un chrétien qui, sur son lit de mort, a partagé en disant, par exemple, « Vous savez, je suis tellement heureux de ne pas avoir passé plus de temps dans la prière. » Ça, c'est la dernière chose que vous allez croire, j'espère. car nous savons tous que nous devrions prier et nous voulons prier. Toutes les Josiane, les Ruth prient. Ou à moins, nous voulons vouloir prier. Toutefois, selon notre expérience, nous savons tous que vouloir, ce n'est pas toujours suffisant pour nous conduire dans la prière. Il manque là l'élément de la communion. Il ne suffit pas de persister dans notre résolution, de décider de nous lever 15 minutes plus tôt et de peut-être marmonner les yeux fermés quelques minutes de plus pour que nous soyons totalement satisfaits de notre discipline spirituelle. Nous avons besoin de comprendre que le temps passé dans la prière est du temps passé avec notre Créateur bien-aimé, avec notre Rédempteur, qui est devenu notre ami. Le but, c'est la communion, et non de noircir des cases sur notre liste de choses que nous avons à faire aujourd'hui et demain. Voici deux différences, voici donc maintenant deux exhortations différentes au sujet de la prière. La première, elle nous vient d'un certain William Law, un grand homme de Dieu du passé, tiré de A Serious Call to a Devout and Holy Life, un appel sérieux à mener une vie sainte et pieuse. Je tiens pour acquis que chaque chrétien en santé se lève tôt le matin. En réalité, il est beaucoup plus raisonnable d'imaginer qu'une personne se lève tôt parce qu'elle est chrétienne, que simplement parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas grand-chose, mais qui travaille tôt le matin dans les champs ou dans un commerce. Donc par conséquent, que cela nous serve de leçon afin que nous réalisons à quel point nous devons paraître odieux aux yeux de Dieu, à tous ceux qui se trouvent au ciel, lorsque nous restons simplement au lit, muets, dans le sommeil et dans l'obscurité, alors que nous devrions être en train d'adorer Dieu. Nous sommes tellement esclaves de la somnolence que nous négligeons notre attachement à l'adoration. Alors que le chrétien est blâmé parce qu'il est un fainéant, un peu paresseux, lorsqu'il se complaît dans son sommeil plutôt que dans sa part de travail temporel, combien plus devrait-il lui être reproché de préférer rester couché dans son lit plutôt que d'élever son cœur vers Dieu dans des actes de louange et d'adoration. Il ne faut pas mal me comprendre. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas le droit de nous reposer. Je n'ai pas voulu dire ça. Par conséquent, celui qui choisit d'ouvrir plus grandes les portes à l'amour du sommeil, au lieu de commencer plutôt sa dévotion à Dieu, préfère le faible délassement de notre corps mortel à l'utilité de l'âme immortelle la plus noble qui soit. mais s'il vous plaît, évitons quand même tout fanatisme, car à mon grand âge, oui, je l'avoue, j'ai parfois un coup de pompe, on dit comme ça dans un mot argot français. Alors, quand j'ai cela, une sieste de 10 minutes peut s'imposer. Chers amis, en voici une autre recommandation qui nous vient cette fois d'un nommé Thomas Goodwin, un autre grand homme de Dieu du passé. Thomas Goodwin dit « La communion réciproque est l'âme de toute véritable amitié ainsi que l'échange agréablement amical avec un ami. En conséquence, en plus de l'hommage quotidien que vous devez à Dieu, prenez donc le temps de vous approcher volontairement afin d'entrer en communion avec Dieu. Voilà la véritable amitié, car l'amitié est cultivée en entretenue par des visites nombreuses, et plus celles-ci sont effectuées librement, et bien moins elles sont motivées par des affaires urgentes ou des solennités, et plus elles sont donc devenues et deviennent amicales. Voici que nous reprocherions à nos amis. Vous venez toujours, malheureusement, uniquement pour parler de vous, de quémander. Mais quand viendrez-vous me voir, moi, votre Seigneur, lorsque vous entrez dans sa présence, eh bien dites-lui à quel point vous l'aimez. Efforcez-vous d'abonder dans des expressions de ce genre, car il n'y a rien de plus agréable au cœur d'un ami, je dis au cœur d'un ami, que d'aimer son Seigneur. Thomas Goodwin me donne le goût de prier. Qui ne voudrait pas goûter à la joie de s'approcher de Dieu? Qui ne prend pas plaisir à partager des secrets et à discuter avec un ami? La prière de ce côté-ci du ciel sera toujours difficile et nécessitera toujours beaucoup de discipline et de volonté. Mais quand je l'aperçois comme le moyen d'être en communion avec mon Père Céleste, eh bien, elle est davantage un désir qu'un devoir. Chers amis, nous poursuivons notre communion avec Christ par la sainte parole de la vérité. Comme l'apôtre Jean chapitre 15, l'a montré, demeurer en Christ entraîne l'obéissance à Christ. Je répète, demeurer en Christ, cela entraîne l'obéissance à Christ. Dans le même passage, Jésus relie ses paroles et le fait de demeurer en lui. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Saint Jean, chapitre 15, verset 7. Répétons cela. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et que mes paroles, les paroles de Jésus-Christ, demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Remarquez que les paroles de Jésus-Christ font un avec sa personne. Nous nous emparons de Jésus-Christ comme ses paroles s'emparent de nous. Cette union, elle requiert plus qu'une simple obéissance. Elle implique également que notre tête et notre cœur assimilent toujours plus l'enseignement de Jésus. Il est décevant que certains dirigeants et érudits au sein de l'Église prennent plaisir à couvrir de honte des chrétiens qui, selon eux, accordent trop d'importance à la Sainte Bible. Ils se permettent des remarques cinglantes telles que « Mais nous adorons Jésus, nous n'adorons pas des mots sur une page. » Bien sûr, de toute évidence, nous ne nous prosternons pas devant l'encre et devant le papier, évidemment pas. Soyons sérieux. L'un des thèmes de la première épître de Saint Jean, c'est que nous demeurons en Christ en laissant la vérité transmise par les apôtres demeurer en nous. Je répète, nous demeurons en Jésus-Christ en laissant la vérité transmise par les apôtres pour qu'elle demeure en nous. C'est seulement lorsque nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu que Dieu demeure en nous. Est-il dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 15. Si nous n'avons pas la vérité au sujet du Fils, eh bien nous n'avons pas la vie. Chapitre 2, verset 23 et chapitre 5, verset 12. Donc ceux qui appartiennent vraiment, vraiment à Dieu écoute les messages qu'il envoie. Chapitre 4, verset 6. Donc, la doctrine n'est pas une distraction qui pourrait nous éloigner de Jésus. En réalité, nous n'avons pas de communion avec Jésus sans connaître la vérité sur lui et par lui. Nous sommes donc sanctifiés dans la vérité, et la vérité, c'est bien entendu la sainte parole de Dieu. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Nous poursuivons donc notre communion avec Christ par la communion avec les autres chrétiens, puisque l'Église, c'est le corps de Christ. Nous ne pouvons être en communion avec Christ sans être également en communion avec les autres chrétiens, évidemment. La communion au sein de la famille de Dieu, ça c'est l'une des expressions de la communion avec Christ, et l'apôtre Jean, il dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 3. C'est donc une déclaration remarquable. Et peu importe à quel point notre Église semble parfois bizarre et insignifiante, mais la communion avec ce groupe de croyants, cela fait partie de la communion avec Dieu. Ceux qui prennent leur communion avec Jésus-Christ au sérieux seront prompts à entrer en communion avec les autres chrétiens. Actes chapitre 2, verset 42 et Hébreux chapitre 10, verset 24 et 25. Il est, je pense, très compréhensible, étant donné que j'ai plus de 90 ans et que je marche avec deux cannes anglaises parce que le canal lombaire est trop serré, parce que mon squelette a diminué et que ça fait très très mal. Et bien sûr, ça devient très difficile. Alors je ne peux plus, évidemment, je ne peux plus me rendre dans une église actuellement. Bien sûr que cela n'était pas du tout le cas quand j'avais 50 à 60 ans. Vous comprenez certainement. Donc faisons attention de ne pas trop vite juger quelqu'un. Chers amis, nous poursuivons également notre communion avec Jésus-Christ en participant au repas du Seigneur. Et oui, il n'est pas surprenant que je mentionne la prière, la parole de Dieu et la communion fraternelle comme étant des aspects importants de notre communion avec Jésus-Christ. Ces pratiques sont la base de la vie chrétienne. Cependant, certains d'entre vous seront surpris, peut-être même troublés, que j'ajoute le repas, la Sainte Cène, la Sainte Communion du Seigneur à cette liste. Eh bien, vous ne devriez pas être trop déçus, car après tout, ne faisons-nous pas régulièrement référence à ce sacrement ou à cette ordonnance comme étant une communion? L'apôtre Paul affirme que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Jésus-Christ? Notez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Le mot communion vient du mot grec qui vous est certainement familier, koinonia. Selon la Sainte Bible, lorsque vous vous approchez de la Sainte Table du Seigneur avec foi, vous avez la koinonia avec Christ. Vous communiez donc avec Jésus et vous participez à son corps et à son sang. Le repas du Seigneur n'est pas seulement le moyen de nous remémorer l'Évangile. Oh non, c'est en plus un festin spirituel où Jésus-Christ est absolument présent, à la fois comme l'hôte et le repas. Sa présence n'est donc pas physique, d'accord, mais elle est bel et bien réelle, spirituellement parlant. À cette table, Jésus-Christ nous nourrit. Il renouvelle nos forces et nous rappelle son amour pour nous. Nous ne célébrons pas un Christ absent pendant ce repas-là, mais nous jouissons d'une communion avec le Christ vivant. Comme l'énonce le fameux Richard Baxter, un autre grand homme de Dieu, Dieu ne peut être plus proche de nous que par Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne peut être mieux représenté que par ce sacrement que nous nommons sacré. Chers amis, soyons honnêtes. La communion avec Dieu n'est pas une priorité pour beaucoup d'entre nous. Au mieux, elle semble parfois même irréaliste. Et au pire, elle n'a même pour certaines aucune importance. La communion avec Dieu n'est pas ce que nous préoccupe le plus. D'abord, nous ne nous émerveillons même plus de savoir que nous pouvons être en communion avec Dieu. nous le tenons plutôt pour acquis tout simplement. Nous imaginons que Dieu est avec tout le monde et que Dieu aime tout le monde et que pour plusieurs raisons, il aime notre compagnie de tous que nous sommes, des milliards que nous sommes. Or, aucune de ces affirmations n'est vraiment vraie. Car Dieu a beau être partout, il est seulement avec au sens de l'engagement. Il est seulement avec ceux qui croient vraiment en son Fils bien-aimé. Donc, la communion avec Dieu est uniquement possible grâce à l'union avec Jésus-Christ. Quelle possibilité remarquable! Car dans le jardin d'Éden, eh bien nous étions destinés à une communion ininterrompue avec Dieu notre Père. Et depuis la chute, le but consiste à rétablir cette communion avec lui. Et la fin de l'histoire, c'est une communion éternelle avec Dieu. La communion entre Dieu et l'homme, c'est la fin visée par la création et la rédemption. C'est vers ce but-là que la théologie et les enseignements doivent toujours nous diriger. C'est l'essence même de la véritable religion. C'est en effet la définition même du christianisme. Il est ahurissant de penser que des pécheurs puissent entrer en communion avec un Dieu sans péché. Et c'est encore plus incroyable que Dieu ait fait devenir péché pour nous celui qui n'a point connu le péché afin que nous puissions être réconciliés avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. C'est donc une bénédiction imméritée que nous puissions, le visage découvert, contempler la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ et être ainsi transformés un pas de gloire à la fois. Chapitre 3, verset 18. Vous pouvez donc connaître Dieu, vous pouvez jouir d'une relation avec Dieu notre Père. Vous pouvez être plus saint que vous ne le croyez maintenant. Le processus est vers la sainteté est plus terrestre que ce que vous pourriez l'imaginer. Cela peut sembler évidemment monotone ou même démodé, mais il se trouve que la façon d'approfondir votre relation avec Jésus et effectivement de prier, de lire la Sainte Bible, de fréquenter une église où vous recevez de bons enseignements, où vous aurez une bonne communion fraternelle, où vous serez baptisés et participerez au repas du Seigneur. Je ne veux pas laisser entendre que le christianisme peut se réduire seulement à quelques conditions requises. Ce n'est pas du tout cela. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez ressembler à Jésus, vous devez bien entendu être en communion avec lui. Et si vous voulez être en communion avec lui, vous devez le faire à sa façon, c'est-à-dire à l'aide des canaux de grâce qu'il met à votre disposition. Cela signifie donc que le seul moyen d'atteindre une sainteté extraordinaire et d'emprunter un chemin ordinaire, c'est donc cela, c'est de prier. Chers amis, pour ceux qui possèdent Internet, eh bien vous trouverez une série de CD très importantes sur le thème de la prière. Notez www.3fois, donc www, bibleexplique.ch. Et j'aimerais pour terminer dire, prions pour tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez dans votre environnement, que ce soit des femmes ou des hommes qui servent le Seigneur. Et je demande maintenant à ceux qui connaissent le pasteur Daniel Guillaume Gentil, qui actuellement prend l'avion depuis Paris jusqu'au Tchad, en Afrique, à son âge avancé, pour enseigner la Sainte Parole. Prions pour eux. Prions pour Daniel Guillaume Gentil. Prions pour tous ceux que vous connaissez. C'est notre devoir. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette très importante série d'études. Prions maintenant ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, les soupirs de l'homme après la connaissance de la vérité et les espérances des prophètes, tu les as satisfaits et réalisés en Jésus-Christ. Illumine tous les cœurs sur lesquels règnent encore les ténèbres. Fais-toi trouver de ceux qui te cherchent et prépare toi-même nos âmes à recevoir ton divin message, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu, toi qui es la source pure de lumière et de vérité, nous te bénissons pour le message que tu nous transmets. Daigne allumer en nous aussi la flamme de l'indomptable espérance. Daigne éclairer nos yeux de la céleste vision d'une cité nouvelle où la justice habitera et d'une terre délivrée du joug du péché. Nous te rendons grâce de ce que tu as fait luire dans notre obscurité la lumière. Et nous voici de nouveau conviés à contempler sa clarté. Mais Seigneur, habitués à l'ombre, souvent nous préférons les ténèbres et trop souvent nous méprisons ton appel et faisons obstacle à ta venue. Nous t'en supplions, aide-nous toi-même par ton Esprit Saint à préparer dignement nos âmes, notre esprit, en ce temps de mystérieuse et joyeuse attente, qu'elle s'ouvre à celui par lequel tu viens à nous, c'est-à-dire toi Jésus-Christ. Conduis à la lumière tous ceux qui tâtonnent encore dans la nuit. Ramène à la lumière tous ceux qui s'en sont écartés et daigne à tous donner ta grâce, ta paix, ta clarté, dès maintenant et à jamais. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et j'aimerais vous mettre maintenant quelques chants d'un très lointain passé, 1954. Parfois, il y a des ratés. Hier, il y avait, tout à coup, ça ne continuait pas. Et j'espère, j'ai prié pour que le Seigneur permettent que ces chants qui sont remplis de l'Esprit Saint, malgré qu'ils sont d'un lointain passé, puisse vous communiquer quelque chose de merveilleux du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci.
Will guide me step by step and live. the mountains that are hindering you today? Who can pick them up like pebbles, clear them from the way? Who can prove his power when a Christian kneels to pray? It is Jesus, he's the one. Jesus holds all power in his mighty hands divine. He's the one who healed the sick, turned water into wine. He makes all things possible, and he's a friend of mine. Blessed Jesus, he's the one. Who can heal the heartache that is crushing you within? Who can pour the balm of heaven where the hurt has been? Who can chase the shadows, make the songs of joy begin? It is Jesus, he's the one. Jesus holds all power in his mighty hands divine. He's the one who healed the sick, turned water into wine. He makes all things possible, and he's a friend of mine. Blessed Jesus, he's the one. Who can keep you from all harm and guide you by the hand? Who can give you power for service and the strength to stand? Who can give you grace for all that living may demand? It is Jesus, he's the one. Jesus holds all power in his mighty hands divine. Turn water into wine. He makes all things possible, and he's a friend of mine. Blessed Jesus, he's the one. My blessed Jesus, he's the one.
Him. Let me touch Jesus. Let me touch him as he passes by. Then when I shall reach out to others, they shall know him, they shall live. Oh, to be touch him. Oh, let me touch Jesus, so that others may know and be blessed.
First song Dick sings today is I've Found the Answer.
I was weak and weary. I had gone astray. Walking in the darkness, I could not find my way. Then a light came shining to lead me from despair. All my sins forgiven, and I was free from care.